Ah, on est bien. On est bien aussi avec Pierre Kasounoguès. Merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone.
Bonjour.
Nous parlons de Lire le cerveau, neuroscience-fiction, paru dans la collection La couleur des idées au Seuil. Et ma première question de brûle pour point, comment s'inscrit Lire le cerveau par rapport à votre précédent livre Mon zombie et moi, philosophie comme fiction?
Donc, Lire le cerveau est la suite directe de Mon zombie et moi. Le livre se place dans la même perspective. C'est-à-dire, il s'agit d'utiliser la fiction, l'imaginaire, pour interroger les propriétés de la nature de notre expérience, et en l'occurrence de la pensée. Qu'est-ce que c'est que notre pensée? Quelles en sont ses conditions telles qu'on peut les interroger par la fiction dans l'imaginaire?
Et donc là, vous récupérez un cérébroscope qui est un appareil imaginaire, une expérience de pensée, et vous en faites à partir de là de la pensée.
Voilà, c'est-à-dire j'ai trouvé dans des articles assez récents de neurosciences, oui, des articles récents de 2006 et 2008, si je me souviens bien, l'idée d'une lecture cérébrale ou d'un lecteur de cerveau, c'est-à-dire d'un appareil qui permettrait de saisir dans le cerveau du sujet sa pensée. Et ce dispositif, il est imaginé par des scientifiques dans l'introduction de leurs articles. Donc ces scientifiques évoquent un tel lecteur de cerveau. Évidemment, ce lecteur de cerveau n'existe pas. Et ce qu'ont les scientifiques, ce sont quelques expériences bien beaucoup plus déterminées. Mais ces expériences, nos savants les inscrivent dans cette perspective d'une lecture de la pensée dans le cerveau. Et donc j'ai voulu interroger notre pensée dans la perspective où justement elle pourrait être lue dans le cerveau. Et donc je récupère ce lecteur de pensée, j'essaye de le comparer à des lecteurs de pensée dans la littérature, puisqu'il y en a, et puis d'essayer de voir comment il pourrait être constitué et ce qu'il signifie pour notre pensée. Qu'est-ce que cela signifie sur la nature de la pensée que, dans le contexte actuel, on puisse envisager de la lire dans le cerveau?
Alors, soyons dans le concret. C'est donc cet appareil qui s'appelle l'autocérébroscope, appareil imaginé par Herbert Fegel dans un article de 1958.
Oui, alors c'est l'une des versions, effectivement, du lecteur de cerveau. Donc, Fegel imagine un appareil qui permettrait donc de visualiser sur un écran, par exemple, les mouvements du cerveau en même temps que l'on a une certaine expérience. Par exemple, j'écoute la musique ou justement j'écoute la radio et en même temps je vois sur un écran de cinéma ou un écran d'ordinateur, je vois les mouvements de mon cerveau. Et le personnage de Fegel va essayer de corréler les mouvements qu'il voit sur son cerveau à ses expériences. Comme si, par exemple, la musique devenant plus aiguë, eh bien, comme sur le clavier d'un piano, les mouvements de mon cerveau se déplaçaient vers la gauche. Et donc, l'idée de Fegel, c'est d'essayer de corréler en fait, donc, le cerveau à la pensée, dans ce qu'il appelle une théorie de l'identité. L'idée de Fegel est que les états mentaux sont un autre aspect en fait des états cérébraux, c'est-à-dire l'état mental, c'est une certaine expérience de la musique, il y a l'état cérébral, et que les deux donc sont corrélés de telle sorte que l'on pourrait lire l'expérience du sujet, son état mental, cette expérience de la musique, en observant l'état de son cerveau. Donc c'est une version du lecteur de cerveau, mais il y en a d'autres dans la littérature et donc dans ces neurosciences contemporaines. Mais effectivement, dans la littérature, les conséquences, disons, philosophiques ne sont parfois pas menées jusqu'au bout, alors que Fegel, lui, vraiment invente son lecteur de cerveau, cet autocérébroscope, dans une perspective philosophique bien déterminée. Ensuite, on peut faire de multiples reproches à Fegel, et peut-être que justement le lecteur de pensée de cerveau qu'imagine Fegel n'étant pas intégré dans une véritable fiction, c'est une expérience de pensée de philosophe, une fiction de philosophe qui n'est pas complètement mise en forme, eh bien peut-être justement que faute d'intégrer ce lecteur de pensée dans une véritable fiction, peut-être qu'il en manque certains aspects, qu'il en rate certaines particularités. Bon, mais c'est notre histoire.
Parce que ça, justement, c'est votre particularité à vous de philosophe, de penseur, c'est-à-dire qu'une fois cette machine impossible posée, vous allez l'utiliser jusqu'au bout avec de la fiction, c'est-à-dire que vous utilisez de la fiction pour aller jusqu'au bout de la pensée, jusqu'au bout, pour penser quelles peuvent être les conséquences de l'utilisation de cette machine.
Voilà, l'hypothèse, c'est que ce que je peux imaginer, c'est ce que je peux raconter. Imaginer, c'est me raconter une histoire. Et donc, pour véritablement imaginer un lecteur de cerveau, il faut l'intégrer dans une histoire où je découvrirais, si j'étais moi-même un savant dans cette histoire, ou bien je pourrais acheter dans le commerce, si je suis un personnage de cette société imaginaire, où apparaissent lecteurs de cerveau. Mais il faut raconter une histoire où se trouve le lecteur de cerveau, et c'est dans cette histoire que l'on peut véritablement interroger les conséquences et le contexte, si vous voulez, qui rend possible le lecteur de cerveau. Pourquoi je parle d'un contexte qui rend possible un lecteur de cerveau ? Eh bien, il est clair que ce n'est pas dans n'importe quel contexte qu'on aura un lecteur de cerveau. Pour avoir un lecteur de cerveau, au moins, il faut d'abord pouvoir croire que l'on peut saisir la pensée dans le cerveau. Et ça, c'est déjà tout un contexte métaphysique, de penser que, de supposer que la pensée s'exprime dans le cerveau. Ça ne va pas du tout de soi. Il faut aussi avoir un intérêt à saisir la pensée de l'autre. Finalement, pourquoi est-ce que je voudrais saisir dans son cerveau la pensée du sujet ? Pourquoi la pensée du sujet, une pensée qu'il me cacherait, qui n'apparaîtrait pas dans ses paroles, pourquoi cette pensée, elle m'intéresse ? On pourrait imaginer qu'elle ne m'intéresse pas du tout. Donc, il y a des circonstances dans lesquelles cette pensée m'intéresse, et il faut donc saisir l'ensemble de ce contexte qui rend possible le lecteur de cerveau, qui le rend possible dans notre société, parce que aujourd'hui, donc, les neuroscientifiques, disons, envisagent une telle lecture de la pensée dans le cerveau. Il faut en saisir le contexte.
Et vous utilisez pour cela de la fiction, mais pas n'importe comment. C'est là-dessus que je veux vous interroger. Quelle différence entre un roman de science-fiction et ce que vous écrivez qui est un essai de science-fiction ? Vous insistez là-dessus, vous écrivez un essai de science-fiction, mais pas un roman de science-fiction.
Et oui, j'utilise la fiction, mais je n'écris pas un roman. Le but est cette fiction, elle est intégrée dans une perspective, disons, spéculative ou à la limite réflexive sur la nature de la pensée. Et donc, un roman, eh bien, la perspective est déterminée par sinon une histoire, au moins une tentative littéraire. Ici, c'est une tentative philosophique, une tentative spéculative pour interroger la nature de la pensée. Donc, à la limite, un même passage pourrait figurer dans un roman et un même passage de fiction pourrait figurer dans un roman et dans un essai. Mais dans un essai, il est intégré dans une autre perspective. Donc c'est pour ça un essai de science-fiction, et je défends ce genre un peu à part qu'est l'essai de science-fiction. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un essai sur la science-fiction, c'est un essai qui utilise la science-fiction, mais qui l'utilise dans une perspective spéculative.
Est-ce que c'est quelque chose que vous inventez, vous, l'essai de science-fiction, ou est-ce qu'il y a déjà eu des précédents ? Est-ce qu'il y a d'autres penseurs, d'autres philosophes qui ont utilisé cette même méthode ?
Ça dépend à quel degré, disons que l'usage de l'expérience de la pensée, cet usage de l'expérience de pensée est très présent dans une certaine philosophie. Ensuite, est-ce que cette expérience de pensée, elle est véritablement développée comme une fiction ? Ça reste parfois à voir. Mais cet essai de science-fiction, je voudrais au moins le promouvoir et lui donner une place officielle, disons, qu'il n'a sans doute pas à l'heure actuelle.
L'avantage que vous avez sur le romancier de science-fiction, c'est qu'à des moments, vous sortez de la fiction, vous l'arrêtez. Je vous cite par exemple. Il faut donc interrompre la fiction et distinguer dans l'écriture différents mécanismes qui n'ont pas les mêmes ressorts. Et à partir du moment où le philosophe s'autorise à sortir de la fiction, où son texte n'est plus un récit, il peut également juxtaposer différents cadres fictifs qui ne se lient pas les uns aux autres. Et on le lit dans Lire le cerveau, justement, votre livre, Pierre Kasounoguès. Il y a des moments qui sont ouvertement fictionnels et des moments, hop, on en sort, vous l'arrêtez et vous entrez dans la théorie. Mais là, du coup, vous cassez la fiction, vous cassez le pacte qu'a le lecteur vis-à-vis de la fiction. Est-ce que vous en avez conscience?
Oui, alors bon, ensuite, effectivement, une fiction, ça peut marcher et ça peut ne pas marcher. Et la difficulté en cassant ce pacte, comme vous dites, en cassant le rythme de la fiction, la difficulté, c'est de continuer à avoir une fiction qui fonctionne. Parce que une fiction qui est simplement commentée, elle ne fonctionne pas, un peu comme une histoire drôle. Si je l'explique trop, elle n'est plus du tout drôle. Donc, il se peut que parfois ces fictions, effectivement, que le pacte soit cassé, rompu, et que ces fictions ne fonctionnent plus. Mais dans des textes bien antérieurs, comme La ville aux deux lumières, j'avais justement essayé, dans cette perspective encore d'une spéculation par l'imaginaire, de rester entièrement dans le cadre de la fiction, sans m'autoriser ces ruptures analytiques, disons, et spéculatives, explicitement spéculatives. Eh bien, j'avais l'impression de manquer de liberté, que je n'étais pas vraiment satisfait par le résultat. Donc, il me semble qu'effectivement, à la fois, le philosophe, il doit utiliser des fictions, et utiliser des fictions, ça veut dire réussir à constituer des fictions qui fonctionnent, à laquelle un lecteur, auquel un lecteur adhère, et en même temps, pouvoir les interrompre. Et il y a effectivement le risque de ne faire que commenter des fictions qui alors ne fonctionneraient plus.
Parce que votre utilisation de la fiction, c'est presque un usage utilitariste de la fiction, un usage matérialiste de la fiction.
Oui, la fiction est entièrement instrumentalisée. Elle est à la fois la fiction que j'écris, mais aussi les fictions que j'emprunte. Bon, il y a par exemple Proust, etc., une nouvelle de André Mauroy sur le lecteur de cerveau, une machine à lire les pensées. Eh bien, je n'entends pas étudier ces fictions pour elles-mêmes, en faire des objets d'étude, comme le ferait un Proustien travaillant sur Proust. Je les utilise de façon totalement en toute liberté pour développer une thèse philosophique. Donc la fiction, il ne s'agit pas de réfléchir sur la fiction, il s'agit de réfléchir avec la fiction. La fiction est vraiment un instrument, un outil, et non pas un objet d'étude.
Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a surpris. Vous dites que la fiction détermine le possible, mais en même temps, vous utilisez pour penser une machine qui est impossible.
Alors, pourquoi cette machine est impossible ? Pour moi, elle est tout à fait possible. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer une société, disons, dans laquelle nous aurions une machine à lire les pensées dans le cerveau. Et il y a toute une série de conditions que cette société doit remplir, mais je pense que c'est tout à fait possible et que, en fait, l'usage de cette machine à lire les pensées, elle impliquerait une transformation dans ce qu'on appelle la pensée. Et qu'à la limite, il n'y aurait pas besoin que cette machine à lire les pensées fonctionne et permette de saisir la pensée au sens où nous l'entendons maintenant. Avec cette machine, on changerait le sens de la pensée et je crois qu'une telle machine est possible. Je vous donne un exemple peut-être pour que ce soit plus clair. Dans le film de Hitchcock, Soupçon, c'est le film donc, où il y a la célèbre scène où Cary Grant monte un verre de lait dans les personnages qui est son épouse dans le film, et donc elle est convaincue, c'est Joan Fontaine, et elle est convaincue que Cary Grant va l'empoisonner, et donc elle soupçonne Cary Grant d'être sur le point de l'empoisonner. Et comment a-t-elle, et rien ne vient démentir ces soupçons, et comment ces soupçons naissent-ils d'abord? Eh bien, c'est une scène où il joue au Scrabble, et Joan Fontaine a les lettres devant elle et forme d'abord en anglais mud, qui signifie boue, et puis murder, qui signifie meurtre, et murderer, meurtrier. Et au moment où elle forme murderer, meurtrier, elle à la conviction que Cary Grant est en train d'essayer de l'assassiner. Et ce soupçon ne la quittera plus et rien ne viendra le démentir. Eh bien, si le Scrabble peut ainsi fonctionner de façon convaincante, sans qu'il y ait réellement d'impasse, si le Scrabble peut ainsi fonctionner pour deviner les intentions de l'autre, eh bien, est-ce qu'une machine ne le pourra pas ? Est-ce qu'on n'est pas convaincu que une machine est capable de saisir la pensée dans le cerveau ? Et si on nous vendait une telle machine, avec un peu de publicité, etc., si on nous vendait une telle machine, est-ce que, comme John Fontaine dans le film, nous n'arriverions pas à organiser nos vies de telle sorte que, si la machine ne fait pas trop régulièrement des erreurs trop grossières, de telle sorte que rien ne vienne justement démentir cette idée que la machine saisit la pensée. Hein. Et voilà. Et si vous voulez, si le Scrabble permet de saisir les intentions de l'autre, je pense qu'une machine, une machine le pourrait a fortiori.
Mais avec ce lecteur de cerveau, est-ce qu'on n'est pas dans un schéma trop biologique, trop matérialiste, et non dans un schéma éloigné de la psychanalyse, par exemple? Que faire de l'usage de la psychanalyse avec un tel appareil?
Ah oui, je ne dis pas que la machine, cette machine à lire les pensées, ce lecteur de cerveau, fonctionnerait et saisirait la pensée au sens où nous entendons aujourd'hui la pensée. Elle saisirait tout autre chose que nous déciderions d'appeler pensée. Et donc, effectivement, ce serait une rupture radicale dans ce que nous appelons pensée. Prenons un autre exemple. Imaginez une machine qui permettrait de lire la douleur. Vous voyez, la douleur, la fièvre. La fièvre se lit avec le thermomètre. Hein. Je pense que j'ai de la fièvre, je mesure ma température, le thermomètre dit que j'ai de la fièvre, j'ai de la fièvre. Le thermomètre dit que je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de fièvre, alors même que je peux avoir l'impression d'avoir de la fièvre. La douleur, c'est tout autre chose. J'ai mal, je sais si j'ai mal. Et je peux avoir mal aux dents, je vais chez le dentiste ne voit rien, il me dit, ben non, ça doit être les nerfs, mais il ne nie pas que je mens, il n'y voit pas de cause. Et inversement, il peut observer une carie, un abcès, il me demande, mais ça vous fait mal? Je dis non. Il me dit, c'est bizarre, mais il accepte que quand je dis j'ai mal, et quand je dis que je n'ai pas mal, je n'ai pas mal. À la différence de la fièvre. La fièvre, ça se mesure de l'extérieur, la douleur, ça se ressent. Eh bien, est-ce qu'on pourrait imaginer une machine qui, comme le thermomètre, la fièvre, saisisse la douleur de l'extérieur? Il faudrait changer le sens du mot douleur, c'est-à-dire accepter que ce n'est pas moi qui sais si j'ai mal, c'est la machine. Et on pourrait du coup avoir l'impression de ressentir la douleur. Il y aurait des douleurs apparentes quand on a l'impression d'avoir mal, mais que la machine dit pas de douleur. Donc, imaginez une machine à lire les pensées dans le cerveau. C'est possible à condition, ou bien que la machine fonctionne, et là, on est si on accepte ça, on est dans un registre effectivement biologisant, mais c'est possible également à condition de donner un contexte dans lequel le sens du mot douleur ou le sens du mot pensée se modifierait et que je ne serais plus moi-même le dépositaire, si vous voulez, de ma douleur ou de ma pensée, mais j'accepterais de les déposer dans la machine et de ne dire « je souffre » que si la machine découvre de la douleur, comme je ne dis « j'ai de la fièvre » que si le thermomètre découvre de la fièvre. Donc, il faut, pour que la machine fonctionne pour imaginer une machine qui fonctionne sans tomber dans une perspective effectivement biologisante et réductionniste, accepter et rendre compte de la façon dont le sens du mot pensée ou le sens du mot douleur peut se modifier. Et c'est ce que j'essaye de faire avec une longue expérience de pensée, une sorte d'histoire qui nous amène jusqu'en 2035 et qui retrace différentes étapes dans deux processus concomitants, la constitution de cette machine à lire les pensées et les modifications du sens que nous attribuons à la pensée.
Et ce récit que vous faites, qui est une histoire inventée, du coup, nous emmène vers de la science-fiction.
Absolument.
Avec des personnages, il y a des personnages dedans.
C'est une sorte de dystopie une utopie donc négative, un espèce de monde, voilà, un peu sinistre finalement. Pourquoi sinistre ? Eh bien, parce que imaginez donc une machine à lire les pensées. Imaginez que nous soyons convaincus que de pouvoir disposer d'un appareil qui me montre les pensées des autres. Donc, je prends l'autobus, j'ai mon appareil à lire les pensées et j'observe les pensées des gens qui sont avec moi dans l'autobus. Et inversement, ceux-ci ont leur appareil et observent ma pensée. Que se passerait-il ? Eh bien, je pense qu'on surveillerait constamment, je crois qu'on surveillerait constamment sa pensée, de la même façon qu'on surveille son apparence extérieure. Et que donc, eh bien, cette pensée constamment surveillée par les autres, mais aussi par moi-même, eh bien, cette pensée nous laisserait peu de liberté, c'est moins qu'on puisse dire.
J'en viens par ma dernière question à Philippe Cadic, qui va nous occuper dans la deuxième partie de l'émission. J'ai trouvé cette citation qui est justement dans le roman 1953-1959 paru au Nouveau Millénaire de Philippe Cadic. Je vous la lis pour voir ce que vous pouvez en penser. Je cite Philippe Cadic, il a dit ou écrit cela en 1981, donc un an avant sa mort. « Je ne suis pas romancier, mais philosophe romanceur. Le don d'écrire est l'instrument qui me sert à formuler ma vision. Le propos de mon œuvre n'est pas l'art, mais la vérité. Ainsi, mes œuvres sont la vérité, mais il n'y a rien que je puisse faire pour l'édulcorer, que ce soit par les actes ou par l'explication. »
Oui, c'est une citation très intéressante, effectivement, de la part de Philippe Cadic, qui est quand même romancier. Bon, sans doute qu'elle se rapporte aussi à ses dernières œuvres, comme la cosmologie de Wallis, qui, effectivement, ont une part philosophique plus explicite que les premiers romans. Mais Philippe Cadic a été, pour moi, très important sur, justement, cette façon de mettre en scène des expériences de pensée dans une véritable fiction. À la différence de la philosophie analytique anglophone qui se contente de donner une sorte de schéma pour une expérience de pensée et du coup sans prendre la peine d'incarner véritablement cette expérience de pensée et du coup souvent en ratant, je pense, des éléments et des éléments du contexte dans lesquels et des hypothèses donc dans lesquelles s'intègrent les notions en question, Philippe Cadic fait des expériences de pensée mais dans des véritables fictions et donc il a été pour moi tout à fait important sur la façon dont on pouvait procéder pour véritablement mettre en scène une expérience de pensée. Dans mon livre précédent, Mon zombie et moi, il y avait toute une partie sur Oubik en particulier. Mais en tout cas, je ne connaissais pas cette phrase de Philippe Cadic. C'est tout à fait intéressant sur la façon dont lui-même voit ses derniers textes comme un philosophe romanceur.
Merci beaucoup, Pierre Castonogues, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et je recommande vraiment chaudement la lecture de Lire le cerveau. Enfin, c'est un livre à nouveau très, très, très stimulant. Et,